En tout cas, bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir de revoir des visages qu'on connaît, au moins la moitié qu'on connaît plus ou moins. Ça fait longtemps que je n'étais pas passé sur place ici. Mais on a des visiteurs réguliers, en particulier un barbu avec sa famille. En tout cas, je ne savais pas très très bien ce que vous attendiez. Jean nous a envoyé une liste de pistes. Alors avec quelques questions, quelques idées. Alors bien sûr, ouais, c'est intéressant. Ah, excellent, ouais, c'est super, ouais, c'est excellent. Mais bien évidemment, j'aime beaucoup quand je parle, quand on s'exprime sur la famille, m'assurer que ça corresponde à des questions, à des interrogations, ou à des recherches. Donc, j'aimerais pas trop parler, plutôt ensuite avoir quelques retours. Me dire, ouais, mais tu n'as pas parlé de ça, ou pas assez parlé de ça. C'est plutôt ça qui m'intéresse, d'accord? Donc j'aimerais vous donner un petit peu un arrière-plan, comment Dieu nous a personnellement conduits avec notre famille. Puis après, ben, s'il vous plaît, gardez vos réactions, vos désaccords présents à l'esprit. Puis tout à l'heure, je laisserai la place. Alors, j'ai eu la chance de grandir dans une famille connaissait Jésus et qui suivait Jésus fidèlement. Évidemment, ça m'a formaté. Heidi, c'est pareil, son papa et sa maman connaissaient Jésus, étaient engagés dans le service chrétien. Donc tous les deux, on avait cet arrière-plan. Bon, c'est une base, évidemment, c'est une base importante, mais ça ne détermine pas tout. On s'est mariés, on s'est dit, bon, combien d'enfants? Bon, j'en vois quelques-uns, moi je viens d'une famille assez nombreuse, elle est... Trois filles, mais ils ont accueilli chez eux pas mal d'enfants de la DAS, donc ils ont connu un groupe un peu plus large. On s'est dit quoi, 4-5?
4.
4, ouais, 4, ça me suffisait. C'était bon, 4, c'était bien pour moi, c'était assez grand, ça fait déjà famille nombreuse pour la plupart des Français. Et puis, ben, voilà, on s'est mariés le 2 mars 85, ça fait déjà une paire d'années. Hein.
On s'est mariés aux États-Unis, et aux États-Unis, c'est le 3-2.
Voilà,
le 3. Donc, du coup, il hésite toujours.
Je me trompe des jours. Donc, et puis, assez rapidement, les bébés sont venus. Il faut avouer qu'on avait... Alors, on aime réfléchir tous les deux, vous allez le voir. On aime penser, on aime lire, c'est pas étonnant, j'ai ramené quelques livres avec moi. J'encouragerais tout le monde à énormément lire et réfléchir, surtout la famille. C'est un sujet qu'on ne peut pas juste, pouf, comme ça, dire je le sens ici, c'est comme ça qu'il faut faire. En tant que chrétien, la base de notre réflexion, c'est évidemment la parole de Dieu. Et puis je dirais en deuxième lieu, je vais voir, comme Jean le disait, ceux qui m'ont précédé. Et puis je dis, mais comment t'as fait? Pourquoi t'as fait ce que t'as fait avec ta famille? Et alors tous les deux, on avait cette réflexion, on a commencé à lire des livres sur le mariage, et puis après, ben, sur les enfants, et puis on s'est posé des questions. La Bible parle beaucoup des enfants d'une manière assez surprenante. Moi, j'ai étudié la théologie pendant des années, alors la parole de Dieu, en tout cas la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Pour moi, c'est pas empreint d'humanisme, dans le sens que, oh ouais, mais c'est comme ça qu'ils pensaient dans leur temps. Non, non, c'est vraiment les paroles de Dieu. Alors quand Dieu il dit, un tel ne pouvait pas avoir d'enfant, puis Dieu lui donna un enfant. Je dis, ouais, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Est-ce qu'on croit, et alors on s'est posé ces questions en tant que jeune marié, est-ce qu'on croit vraiment que Dieu donne les enfants? Ou alors c'est juste un processus naturel, vous savez comment ça se passe, voilà, c'est des petits machins qui se baladent et puis hop. Ou c'est Dieu? Alors la Bible le présente comme Dieu, hein, c'est fréquemment, régulièrement. D'ailleurs c'est surprenant que toute la lignée de Jésus passe par des femmes stériles. Et à chaque fois, stériles. C'est surprenant, c'est bizarre. Si je crois à la grande histoire de Dieu et d'un Dieu tout-puissant et qui agit, je crois, je crois pas. Alors on s'est posé des questions. Est-ce que Dieu donne les enfants ou est-ce que c'est nous qui décidons quand, comment? Alors je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est un grand débat. Mais les choses étant ce qu'elles étaient, on a eu un enfant, et puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Très vite, on a compris, mais moi j'ai compris surtout en tant que gars, que Dieu aime se servir du mariage et des enfants pour faire pas mal de choses dans son cœur.
Alors, de me montrer surtout ce qui ne va pas. Dans
c'était très clair très vite. Hein. J'étais particulièrement égoïste. Bon, je crois que j'étais parmi mes amis et mes frères et sœurs, ou mes frères en bonne compagnie peut-être, mais particulièrement égoïste. Et puis qu'on a des enfants, bah, et qu'ils ne dorment pas la nuit, et qu'on bah, ne peut plus être égoïste. On ne peut plus juste dire, bah, chérie, débrouille-toi, moi je suis fatigué, demain matin je pars à 6 heures, il faut que... Non. Alors là, je pense qu'il y a un processus, mais vous l'avez connu, ce n'est pas nouveau, c'est un processus de mort à soi qui vient très tôt. Je crois que les enfants sont formidables à ce niveau-là pour vraiment nous montrer le péché dans notre vie. Ça sort. Quand on est fatigué, le péché sort plus vite. Il sort contre l'enfant, il sort contre le conjoint, et ça sort. C'est un catalyseur phénoménal. Donc rien que pour ça, je dirais, ayez des enfants, c'est formidable. Dieu utilise ça pour mettre le doigt sur les péchés de votre vie, et c'est très efficace.
T'as bien rappelé ça, l'école du Seigneur.
L'école du Seigneur, oui.
Tout peut être une école, la maladie, etc. Mais elle dit, les enfants, c'est l'école du Seigneur, pour apprendre ce qu'il veut qu'on apprenne de lui.
Alors bon, et assez rapidement aussi, vu qu'on parlait beaucoup de la famille, des enfants, on s'est rendu compte aussi que avoir ou chercher à avoir une perspective chrétienne de la famille, très vite, elle devient contre-culture. Très vite, on se rend compte que notre manière de réfléchir la famille était sensiblement opposée à celle de la culture environnante. Si on dit « les enfants sont une bénédiction du Seigneur », c'est littéralement ce que dit la Bible, et si je crois que la Bible, c'est les paroles de Dieu pour nous, alors, je ne peux pas dire vivement qu'il a 2 ans pour que je le foute à l'école maternelle. Je ne peux pas dire ça. C'est une bénédiction. Alors, normalement, c'est de cet enfant enrichit ma vie. Il est quelque part un don de Dieu qui doit... On en a 2, 3, 4, et puis les gens disent, alors, vous arrêtez, c'est fini. Attendez, je suis chrétien, j'essaye de penser ma foi, j'essaye de réfléchir comme un chrétien. C'est difficile. Mais en tout cas... Les premières années, je dirais, étaient probablement les années les plus en proie au questionnement. On voulait faire bien, on voulait s'assurer que ce que Dieu dit avait des répercussions sur notre vie. Et ce n'est pas évident, parce que vraiment, on sentait souvent, même par rapport aux chrétiens de notre entourage, donc pas seulement la culture, en désaccord.
Moi, je pense pour moi, plus que pour toi... C'était, la Bible parlait que Dieu ouvrait l'utérus, il fermait l'utérus. C'était, et si la Bible est vraie, il dit aussi que les enfants sont une bénédiction. Alors est-ce que quelque part, je croyais qu'il contrôlait tout? Ou est-ce que non, c'est le hasard, c'est mes choix et tout ça rentre. Et lui, de temps en temps, il met son grain de sel dedans. Mais en général, non, c'est les humains qui décident. Et pour moi, enfin, les enfants, ça devenait pour moi, bah, est-ce que je crois que c'est une bénédiction et que Dieu... veut me bénir avec des enfants et qu'il ne me donnera pas d'enfants si je ne suis pas prête à gérer ça. Et pour moi, ça m'omnibulait. Des fois, je dis, mais si je ne lui donne pas ça, ben le reste de ma vie, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas d'argent pour payer pour la réparation de la voiture, mais si Dieu ne s'occupe pas de ça, de l'arrivée des enfants, ben, la voiture laisse tomber. Ce n'est même pas important de demander de l'argent pour la voiture, parce qu'il ne se mêle pas de nos petites histoires. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus important, je pense, pour toi, un certain temps.
Donc, En tout cas, ça a été évidemment pendant des longues années, je veux dire, le terrain favorable que Dieu a utilisé pour, comme dit Paul à Timothée, combattre le bon combat de la foi. Je crois, je suis persuadé aujourd'hui, plus que jamais, que notre vie chrétienne est principalement un combat de la foi. Et Dieu utilise nos couples, il utilise nos familles, notre environnement, pour quelque part tester notre foi. Et pour nous, c'était en particulier le côté famille, les enfants. Est-ce que tu vas faire confiance à Dieu ou est-ce que tu vas agir bah, comme la majorité des autres agissent? Alors, pour rendre une longue histoire un peu plus courte, j'avais prévu, ouais, j'avais souhaité 4. Finalement, ce n'est pas arrêté à 4. Il y en a un 5e qui est venu, et puis un 6e, puis un 7e. Et puis après, il y en a eu encore 2.
3,
mais qui ne sont pas nés. Donc, à 7, apparemment, le côté biologique s'était arrêté. Et c'est là que Heidi a commencé à faire des choses qui m'ennuyaient, qui me gênaient. Et je me suis dit, maintes et maintes fois, ça va lui passer. Elle avait commencé à surfer sur Internet, sur des sites que je voyais de la cuisine. Je me disais, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Agence d'adoption. Je me disais, qu'est-ce qu'elle fait? Puis elle commence à m'en parler, très gentiment, comme ça, ici et là. Philippe, tu te rends compte qu'il y a des milliers de fratries. Donc vous savez ce que c'est une fratrie, hein? Donc c'est un groupe de frères et sœurs, donc de fratries d'orphelins. Et dans beaucoup de pays, ces fratries sont indivisibles. Donc ils sont des orphelins qui auraient besoin d'être adoptés, mais vu les lois du pays, ils ne seront adoptés que si une famille les prend tous. Et alors, des fratries vont 3, 4, 5, 6, 7, 8, les plus grosses que tu as vues, c'est quoi ?
7, je crois.
7 enfants dans une fratrie. Et elle a commencé à me poser la question, mais qui pourrait adopter d'un coup 5 enfants ? Imagine un jeune couple, 23 ans, 25 ans, 26 ans, ils viennent se marier, et puis on leur dit, ah, vous devriez adopter 5 enfants. Péter un câble, c'est pas possible, c'est pas
déjà
imaginable.
Déjà un à la fois.
On s'est rendu compte que c'était compliqué quand même. Et c'est là qu'il y a un processus qui s'est mis en route. Et tu pourras en parler un peu plus, parce que tu étais vraiment au cœur du processus. L'idée d'autre chose. Donc on avait été, on l'estimait en tout cas, déjà énormément béni par le Seigneur, avec 7 enfants biologiques. Et puis je crois, maintenant je suis persuadé que Dieu a poussé Heidi dans une direction, peut-être raconte-nous peut-être un peu plus comment c'est passé.
En fait, on a enfin été d'accord que on allait demander un agrément, en sachant qu'en France, ils sont pas si faciles à avoir. Un agrément, c'est l'accord de... C'est un dossier qui décrit la famille, aussi un accord pour pouvoir adopter. Sans ça, on ne peut pas accueillir un enfant par l'adoption dans la famille. Donc, on a envoyé une lettre. Je me rappelle, pendant les discussions, je me rappelle, j'avais dit à Philippe, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qu'on demande à Dieu un gros chèque. Comme ça, on sait que si le chèque arrive, c'est que, parce que ça coûte cher l'adoption, un gros chèque comme ça, c'est le signe de Dieu qu'on est censé faire ça. Et finalement, on n'a pas demandé ça à Dieu. On a dit, on envoie l'agrément. La demande d'agrément, ça prend un an minimum. On va voir. Et de toute façon, Dieu peut très bien fermer la porte par dire non pour l'agrément. Et on a des amis qui ont demandé, ils avaient un enfant handicapé. Et donc, ils ne voulaient plus d'enfants biologiques. Ils ont demandé l'agrément, c'était refusé. Donc, on savait que c'était possible que Dieu refuse de cette manière-là. Et donc, on a envoyé le courrier. Et le jour même ou le lendemain, je ne sais plus, on a reçu un chèque pour 1 000 $ dans le courrier. Première fois que ça nous est arrivé, un cadeau pour nos enfants. Je dis, ok Seigneur, j'ai pas demandé, mais d'accord, c'est peut-être un clin d'œil de toi quand même. J'ai quand même dit ça à la personne qui avait envoyé le chèque, elle était horrifiée. Ah non, je pense pas du tout que vous devriez adopter, c'est pas pour ça que j'ai envoyé le chèque, c'est pour vos enfants. Je dis, oui, j'ai bien compris. Et donc, ça a traîné, on a mis, au bout d'un an, on avait un agrément pour adopter une fratrie de 1 ou 2 enfants. Que nous, on avait demandé 5, parce que le maximum en France, c'est 5. Bon, après, on aurait pu adopter 2 ou 3, mais si on avait l'agrément pour 5, ça ne nous limitait pas dans les démarches par la suite. Donc, les assistantes sociales nous ont dit 1 ou 2. Bon, une fratrie de 1, c'est bizarre, mais bon, bref. Donc, on a contesté, on a dit que ce n'était pas ça qu'on voulait. On a dû voir un deuxième psychologue, encore des assistantes sociales... plaider notre cause. On a bien vu avec la psychologue comme Dieu avait ouvert son cœur. On a parlé avec elle au début et puis elle était négative, mais vous ne vous rendez pas compte, vous allez bousiller votre famille, les enfants vont pâtir, etc., etc. Mais vous connaissez des gens qui adoptaient des fratries et ça marchait ? Je dis, oui. Puis je commençais à faire la liste de nos amis aux États-Unis principalement, en Suisse aussi, qui ont adopté des fratries. Et puis c'est comme si son cœur s'est ouvert à notre projet, dit, d'accord, je vais vous appuyer pour votre dossier pour 3 enfants. Parce que c'est vrai, moi je vois que les échecs, moi je ne connais pas les réussites. Donc allez, j'appuie votre dossier. Et on a attendu encore un an. Et finalement, on a eu l'agrément pour 3, une fratrie de 3. Ça a pris encore 2 ans, je pense, avant de trouver une fratrie qui... Parce qu'on a commencé... on ne savait pas trop où, que Dieu nous guide. Aux États-Unis, moi, je suis américaine de naissance, donc il y a pas mal de fratries aux États-Unis. Mais dans la réalité, c'était compliqué pour qu'ils vivent en dehors, même si légalement, c'était possible. Et finalement, on a eu vent d'une fratrie de 3 enfants en Ukraine. Et on a commencé à faire des démarches. Et c'était très, très long et pénible. Et à un moment, j'ai dit à Dieu, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus, les démarches. Je ne suis pas papier. Hein. Philippe peut témoigner, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas faire la paperasse, c'est bien moi. J'aurais été une très mauvaise secrétaire. Et l'adoption, c'est plein de papiers. Et à un moment, j'ai dit à Dieu, je dis, mais je n'en peux plus. J'y envoie-moi un petit chèque ou quelque chose, parce que moi, j'arrête. Je ne fais plus de papier. Et puis, peut-être une semaine plus tard, j'ai eu un chèque d'une non-chrétienne de 500 euros. J'ai entendu que vous allez adopter et vous aurez besoin d'argent. Donc, je vous envoie un chèque. En plus, une non-chrétienne, mais pas seulement non-chrétienne, mais athée. Je dis, en plus, elle avait un enfant, elle. C'est pas comme si elle croyait à la grande famille. J'ai continué avec les papiers et on a mis encore 2 ans après l'agrément pour vraiment aller en Ukraine chercher nos 3 derniers enfants qui ont maintenant, on les a adoptés à 3 ans et demi. Ils ont maintenant 11, 12 et 13 ans. Notre dernier biologique a 14 ans et notre aîné va avoir 30 ans cette année. Donc ça vous donne un peu... Donc ils n'ont pas tous vécu ensemble, on dit 10 enfants, mais on n'a jamais eu 10 vraiment à la maison, sauf pour les fêtes. Mais là, on a 3 qui sont mariés, donc au moment des fêtes, c'est même pas juste 10, c'est plus. Plus 2 petits-enfants et un 3e qui arrive. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire de l'adoption pour l'instant. Chaque jour est une aventure. Moi, j'ai toujours essayé de dire à Philippe quand il a dit on arrête là, que pour moi, un enfant, c'est un cadeau que Dieu nous donne, qu'on l'ouvre pendant 20 ans, ou même plus. Là, notre aîné va avoir 30 ans, on découvre, vous le connaissez peut-être, il fait des webinaires chrétiens assez régulièrement. Enfin, les gens, ils disent, « Ah, vous êtes les parents de Stéphane, hein, trop cool !» Donc, j'ai l'impression que c'est quelque part, c'est un cadeau que j'ouvre encore, que Dieu m'a fait, que je découvre ses compétences, ses faiblesses... Et donc, on découvre encore tous les jours avec nos biologiques, mais nos 3 derniers aussi, leurs qualités, leurs faiblesses. Et on a énormément de joie avec l'aide de Dieu, parce que des fois...
Jean a dit tout à l'heure que l'après-midi est sur le thème du témoignage. J'aimerais beaucoup insister là-dessus. Quand on parle d'une grande famille, les gens ont l'impression que automatiquement vous devez tomber dans la catégorie des super-héros. Sinon, ce n'est pas possible. Et je vous assure que ce n'est pas vrai. Je me sens, et je sais que Heidi, je la connais bien maintenant, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, on est des gens totalement ordinaires, mais Dieu utilise quotidiennement le contexte d'une famille assez large pour montrer combien nous sommes ordinaires, combien nous sommes pécheurs et combien on a besoin de lui. Et c'est le côté phénoménal, formidable, en tout cas l'un des côtés phénoménal de la grande famille. Peut-être que vous, je sais qu'il y a plusieurs grandes familles ici, vous l'avez peut-être aussi vécu. Je disais à Heidi dans la voiture en venant ici, encore je lui rappelais que pour moi, l'un des moments les plus forts du processus d'adoption, on a dû passer au moins 6 semaines en Ukraine. C'était long, c'était difficile. Je ne parle pas la langue, je ne connais pas le pays, je n'avais pas de contact sur place, on n'avait pas de contact sur place. On logeait dans une pièce, c'était une pièce dans une église a bien voulu nous prêter, c'était une pièce avec plein de lits superposés, c'était sûrement, je ne sais pas, l'école du dimanche pour les petits, je ne sais pas.
C'était un dortoir, ils avaient des conférences. Voilà, bon.
Alors voilà, on rigolait, pendant 6 semaines, pour tout élément de cuisine, une bouilloire électrique. Voilà, c'était notre cuisine, donc on faisait des pâtes instantanées, des céréales instantanées, et on avait avec nous 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Mais c'était formidable. Je sais que chaque soir, et je ne l'ai pas vécu avant dans ma vie, chaque soir en me couchant, je disais, j'en peux plus, je suis éreinté. Quand vous êtes dans un pays où vous ne comprenez rien de la langue, c'est vrai que c'est fatigant, mais c'est très fatigant.
Parce que la moitié de ce temps-là, on avait les 3 enfants en plus, qui ne comprenaient pas un mot qu'on disait. Enfin, quoique toi, assez vite, avec le polonais, t'arrivais à...
Mais bidouiller quelque chose,
ouais. Ils ne comprenaient pas, et même quand ils comprenaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient.
La peur de les perdre. Parce que mais si je perds cet enfant dans cette ville de Kiev, je ne sais pas où te retrouver. Je ne sais pas comment parler à la police. Je ne sais pas quoi dire. Alors tu es constamment en train de les surveiller, de les garder à côté de toi, presque avec une... Mais chaque matin, je sais que chaque matin en me levant, je savais que Dieu avait renouvelé la force pour 24 heures. Et je crois que c'est vivre ça avec les enfants dans un contexte aussi défavorable, mais après le vivre dans ta famille, avec plein d'enfants autour de la table chaque matin, c'est une façon de grandir de manière formidable dans ta foi. De te rappeler aussi que tu es très petit, très vulnérable. Et que sans la grâce de Dieu dans ta vie, sans la grâce de Dieu dans la vie de tes enfants, rien ne se passerait. On parle de tes enfants, est-ce qu'ils suivent le Seigneur? Ben, grâce à Dieu. Dieu agit dans leur cœur, et grâce à Dieu, ben leur cœur est incliné dans leur direction. Mais vous, vous faites quoi? Mais bien sûr, on prend la parole de Dieu, Deutéronome 6, hein, clairement indiqué, vous allez instruire vos enfants dans les... Alors, ben d'accord, on instruit. Mais c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous renouvelle. C'est la grâce de Dieu qui touche les cœurs. C'est la grâce de Dieu qui, avec les aînés maintenant, les fait marcher dans le bon chemin. C'est la grâce de Dieu. Et je crois que la famille est un milieu, je le répète, je me répète, est un milieu particulièrement favorable pour voir, pour avoir besoin de voir quotidiennement la grâce et la puissance de Dieu à l'œuvre, s'en émerveiller et puis d'être très, très, très reconnaissant. On est très reconnaissant pour ce que nous vivons. Alors, je ne sais pas si vous avez, dans ce contexte-là, des questions? Est-ce que tu préfères garder les questions pour après? Pour après, Jean? On s'arrête là pour l'instant alors? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il faut continuer? Moi, évidemment, je peux parler de la famille pendant un petit moment.
Tu peux parler pendant une heure, il n'y a pas de problème.
Mais... Est-ce qu'il faudrait parler peut-être, je sais pas, mais j'ai vu que tu as mis pas mal de pistes par rapport à comment on a vécu la foi dans la famille. Est-ce qu'il faudrait dire un peu plus sur ça? Évidemment, je crois très très fort que, comme je viens de le dire, je ne peux pas amener mon fils, ma fille, à croire en Jésus. Mais évidemment, selon ce que dit la parole de Dieu, le job numéro un m'en revient. J'ai la responsabilité numéro un de parler à mon fils, à ma fille, dans le temps, avec régularité. Ce n'est pas les instituteurs d'école du dimanche qui sont responsables pour vos enfants. C'est vous en tant que parents. Vous avez, c'est Dieu qui dit dans Deutéronome 6, tu vas l'instruire le matin au lever, à midi, le soir, quand tu es sur la route, parle-lui de Dieu. Toi, tu sais qui est Dieu. Et nous sommes, comme quelqu'un disait, des poteaux indicateurs. Je ne peux pas le forcer à croire. Mais je peux lui dire, regarde, Jésus, c'est dans cette direction. Si tu veux comprendre le monde, si tu veux te comprendre toi, regarde, c'est par ici. Et évidemment, on le dit toujours, mais c'est vrai, hein, le message le plus fort que je peux leur donner, c'est de vivre ce que je leur dis. Avec elle. Parce que ça, je ne peux pas tricher. Il me voit tous les jours. Le matin, je me lève. Si je suis de mauvaise humeur, quand je suis de mauvaise humeur, il le voit. Si je lui parle d'une manière qui n'est pas appropriée, il le voit, il l'entend. Donc, si quelqu'un va être convaincu de la vérité du message de l'Évangile, bah, ça va être mes enfants en premier. Je peux aller dans le monde extérieur, dans la rue, donner des traités et dire, voilà, Jésus est le sauveur. Jésus est la liberté. Jésus apporte la paix. Jésus apporte la réconciliation. Ouais, mais comment tu vis? Ben, mes enfants le voient. Donc si eux ne sont pas convaincus, qui le sera? Donc là, alors là, bien sûr, on aurait pu faire mieux ce qu'on a fait, on peut faire mieux que ce qu'on fait, mais on pense que c'est important d'accorder aux enfants du temps. C'est incontournable. Du temps, non seulement souvent, mais du temps de qualité, les deux. On ne peut pas juste concentrer une fois le mercredi après-midi, 3 heures avec l'enfant, puis c'est bon, quoi, pour la semaine, tu as ta dose. On n'a pas le choix. Donc, on a décidé, par exemple, pour nous, que bon, Heidi resterait à la maison avec les enfants dès le départ. On ne le regrette absolument pas. Ça limite les revenus financiers, mais ça élimine toute une série de problèmes potentiels avec les enfants après. Donc là, on s'investit avec les enfants, auprès des enfants. Ils sont conscients qu'à tout moment, ils peuvent venir vers nous avec leurs problèmes. Le soir, en général, j'ai décidé que c'était plutôt mon job de les mettre la plupart du temps au lit. Donc on prend du temps avec les plus petits. Je ne vais pas faire ça avec celui de 30 ans maintenant. Mais avec les plus petits, on prend du temps pour lire, répondre aux questions. Je crois aussi ce qui est important, c'est quand Deutéronome dit... à tout moment de la journée, par l'heure des choses de Dieu, c'est de constamment placer la grande histoire, j'aime ce terme, la grande histoire de la rédemption dans la vie de tous les jours. Tu vois, si tu regardes un papillon, tu dis « Ah, punaise, Dieu a fait vraiment une chose incroyable !» Qu'ils se rendent compte que ce n'est pas juste à l'église, lors de l'école du dimanche matin, qu'ils entendent parler de Dieu. On vit dans l'histoire de Dieu, on est dans l'histoire de Dieu. Quand on fait des sciences, quand on fait des maths, quand on fait de la physique, quand on fait de la lecture, on est en train de parler de Dieu, de vivre des choses de Dieu. Donc là, je pense que c'est une des voies royales, c'est cet accompagnement constant, de donner du temps à l'enfant, d'être avec l'enfant, de lui donner aussi une notion très... Peut-être la première chose que l'enfant doit apprendre, hein, je ne sais pas pour ceux qui en sont tout petits, mais pour moi c'est assez clair, une des toutes premières choses que Dieu nous dit d'enseigner à l'enfant, c'est la notion d'autorité. Loulou, il existe dans ce monde une autorité, et ce n'est pas toi. Je sais que tu veux mettre ton chapeau à l'envers, mais moi je t'ai dit que tu le mets de l'autre côté. L'autorité, c'est celle que Dieu m'a donnée, lui a donnée auprès de l'enfant, et elle doit apprendre, il doit apprendre très jeune, tout petit, que dans le monde, il y a des autorités. Dieu est l'autorité suprême. Il ou elle aura un patron, probablement. En attendant, il a des parents, et les parents, c'est l'autorité. Et je sais que dans une culture comme la nôtre, parfois, c'est un petit peu chahuté. Je suis obligé de lui apprendre ce qui va lui servir ensuite pour comprendre que Dieu doit être l'autorité de sa vie. Et si je ne lui apprends pas, il aura du mal à comprendre quand Dieu va ensuite dire « C'est moi le chef ici. Soumets-toi à ma parole. » Les parents n'ont pas fait leur travail. Alors après, il a du mal à rentrer dans ce système parce qu'il n'a pas compris. Donc voilà, au niveau de l'apprentissage des enfants, des choses... Bon, bien sûr, Heidi étant à la maison, elle joue un rôle énorme, fondamental, auprès du suivi des enfants quotidiennement. Bon,
on a choisi de faire école à la maison, mais ça, c'est toute une autre histoire qui n'est pas très française. Je suis américaine, donc... Mais j'étais quand même énormément présente avec mes enfants. Même le matin, on peut lire la Bible ensemble. J'ai lu beaucoup de récits missionnaires dans le cadre de l'école. J'ai pu faire beaucoup raccrocher la grande histoire de Dieu à ce que j'enseignais aux enfants. Moi, je suis prof de maths à la base, alors je suis émerveillée par les maths. Ceux qui ne sont pas matheux, vous n'allez pas comprendre, mais quand on voit le pi et la beauté de pi ou la beauté des triangles et comment Dieu a fait que les mesures de triangles sont si bien organisées, le hasard, c'est pas possible. Dieu a créé les maths. Mais bon, ça, c'est moi. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça très bizarre. Mais ça, c'est... Je le dis aux enfants. Mais regardez, Dieu a fait ça super bien. Regarde. Puis, c'est une façon de montrer que tout vient de lui. À l'école, on enseigne l'évolution. Moi, je parle de l'évolution à mes enfants comme une théorie que les hommes ont créée, que peut-être... a pu faire, mais bon, la Bible nous dit ça, et moi je crois ça, et voilà, enfin, je veux dire, c'est un privilège d'avoir, et ça, même si on ne fait pas l'école à la maison, on peut encore avoir ce temps pour corriger un peu le tir avec nos enfants, qu'est-ce que je crois vraiment, et même s'instruire, parce que des fois, moi, au début, je ne savais pas ce que je pensais par rapport à l'évolution, j'avais été à l'école comme tout le monde, je ne savais pas, donc il fallait que moi, je m'instruise pour pouvoir passer aux enfants, qu'est-ce que, en tant que chrétienne, moi je pense, et papa pareil, qu'est-ce qu'il pense vraiment de la création? Et donc, ça, qu'on fait école à la maison, qu'on fait l'école traditionnelle, on a en tant que chrétien besoin de s'instruire et d'aider nos enfants à patauger dans la vérité et dans les choses fausses qui sont enseignées.
Donc, et vous avez les clés. Et j'aurais presque redonné à vous, parents, alors surtout les jeunes parents, qui ont encore des années devant eux, vous redonnez cette idée que être parent est un métier noble. C'est sûrement le plus noble des métiers. Malheureusement, vous êtes à nouveau à contre-culture quand vous parlez d'un rôle de parent comme étant noble. C'est Dieu qui vous donne le droit d'exercer son autorité auprès d'un groupe d'enfants qu'il vous prête pour quelques années. Et ça aussi, assez vite, on en parlait dans la voiture encore, assez vite, on a développé ce sentiment que c'est un cadeau qu'il nous fait, mais pour un temps. Vous ne pouvez pas essayer de vivre votre vie par vos enfants. Ils sont juste des cadeaux que Dieu vous a prêtés pour quelques années. Et vous êtes censé investir dans ces enfants en tant qu'ambassadeur de Dieu. C'est ce que vous êtes des ambassadeurs auprès de vos enfants. Et leur donner tout ce que vous savez de vrai sur Dieu. Et très fréquemment, on s'est rendu compte qu'on est obligé d'être à contre-culture. De dire, tes copains vont sûrement te dire ça, mais moi je te dis ça. Qu'est-ce qui compte dans la vie vraiment? D'avoir un métier? D'avoir un bon diplôme? De bien gagner sa vie? Non. Et maintenant que les années sont passées, j'ai vraiment du plaisir parce que, bon, on a 10 enfants, il y a une série qui sont 3 déjà mariés, et puis il y a quelques-uns qui sont en train d'étudier à la fac, tout ça. Alors bon, il y en a un qui est pasteur. Ah, il ne gagne pas terrible, lui. Hein. Et puis le deuxième, il est ingénieur. Oh, tiens, c'est pas pareil. Hein. La troisième, ah, elle est prof de maths. Elle a eu son CAPES du premier coup. Bah, vache,
mais elle est au foyer.
Mais, ah oui, mais elle a décidé de laisser tomber tout son travail pour s'occuper de son bébé. Bon, pourquoi pas. Le quatrième, ah, lui, il veut s'occuper des espaces verts. Voilà. Son rêve, c'est de s'occuper des fleurs et des plantes. Mais c'est formidable. Quelque part, de se rendre compte que les enfants ont quelque part compris quelque chose. Ce qui compte, ce n'est pas le diplôme. Et malheureusement, dans la culture, on va vous dire, c'est ça. Vas-y, travaille vers le diplôme. Sans ça, qu'est-ce que tu vas devenir? Un chrétien ne pense pas comme ça. Le diplôme peut avoir sa place. Et effectivement, parmi mes enfants, j'ai des diplômes, même des beaux diplômes. Mais ça ne change rien du tout le rapport avec l'enfant. Si je dois parler avec un ingénieur ou parler avec un BTS, c'est pareil. Est-ce que tu aimes Jésus? Ah ben, t'es sur le bon chemin. Et c'est ça qui fait la différence chez un parent chrétien, c'est qu'il va d'abord s'occuper du caractère, du cœur de l'enfant. Où est ton cœur, loulou? Ouais, je sais que tu as fini tes grandes études, ça n'a aucune importance. Où est ton cœur? Parce que c'est ça qui compte. Et je crois que c'est un travail qui, toute la vie, va devoir motiver le parent chrétien. Est-ce que je suis en train de lui enseigner les choses de Dieu, selon ce que Dieu me dit être vrai? Ou est-ce que je suis influencé par la culture et je lui dis des choses? C'est pas ça qui vont lui procurer une entrée royale au ciel en disant « Bon et fidèle serviteur, tu as fini ton diplôme, ta maîtrise. » C'est pas ça, vous le savez très bien. Mais on est malheureusement influencé par la culture. Donc, je vous encourage, je reviens, c'est un noble métier, mais un métier qui demande une réflexion. Lisez des bons livres sur le comment être parent. Surtout, lisez le bon livre et essayez de voir en quoi la parole de Dieu devrait marquer, influencer, diriger, orienter vos pensées. Pour que vous ne soyez pas juste des copies conformes de ce que le monde crée, et ensuite, comment le monde enseigne leurs enfants. Et je crois que la différence, après, elle est formidable. Une des questions était ici, quelle bénédiction Dieu vous a accordée? Pour moi, l'une des plus grandes bénédictions en tant que parent, c'est d'avoir des enfants qui commencent à grandir, qui sont adultes, et qui t'appellent, qui disent « Papa, j'aimerais te parler ». Et ils me posent des questions sur la foi, sur sa vie de famille. Ou les enfants qui viennent nous voir, ils disent « Ça nous est arrivé plusieurs fois ». Papa, maman, comment vous avez fait? On aimerait vivre ça aussi dans notre famille. Ça, c'est une bénédiction. Quelque part, on a l'impression que Dieu utilise votre faiblesse, et la grande, grande faiblesse, pour quelque part transformer progressivement des vies à travers les années. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'à choisir, si je vais choisir, quand j'avais 25 ans, 26, 27, 28, 29, 30, si j'avais à choisir, je me serais arrêté avec 3, 4 en disant... Je peux plus, c'est trop fatigant. J'ai eu trop de nuits blanches, j'ai eu trop de fatigue, j'ai eu trop de vomi à ramasser. C'est ça, hein? Mais je crois que Dieu peut utiliser, et c'est sûr qu'il utilise, les moments les plus pénibles de vos vies dans les familles pour progressivement façonner, comme Dieu dit, l'image de Jésus en toi. Mais c'est ça qu'il veut faire, hein? Je veux dire, lui, il ne s'inquiète pas trop si vous êtes trop fatigué ou trop, je ne sais pas trop quoi, hein? Il s'inquiète de voir simplement l'image de Jésus se former en toi. Et après, quand nous, on peut accompagner nos enfants, je crois que c'est un travail de discipulat, un travail de mentorat, on les accompagne, ils sont chez nous pendant 18 ans, 20 ans, un peu plus parfois, et là, on est à côté d'eux, et après de les voir grandir et de s'attacher à Dieu, c'est vraiment l'une des plus grandes joies, je crois, en tant que parent.
Je pense que si on avait à refaire, on aurait posé moins de questions.
Ouais.
On aurait eu au moins autant d'enfants, peut-être plus. Et enfin, si Dieu avait fait différemment, c'est pas sûr. Mais je crois que j'aurais eu moins peur. Parce que je crois que c'était ça à chaque étape. C'était, mais est-ce que ça va être trop dur? Est-ce que j'arriverai pas? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'il contrôle vraiment tout ça? Et je pense qu'en regardant en arrière, j'ai bête que j'étais. Enfin, oui, il contrôle tout. il a, quand je regarde en arrière, ben, on a vécu des super choses avec Dieu et j'aurais envie de le faire pareil ou encore avec plus de mouvement à la maison, avec plus de bouche à nourrir et plus de câlins à donner.
C'est vrai, t'as raison. Jean.
Vous dites que les études ne sont pas importantes, que les diplômes ne sont pas importants.
J'ai pas dit ça. Non. J'ai dit ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas la priorité numéro un. Pour moi, la priorité numéro un chez mon enfant, c'est de voir son cœur s'orienter dans la bonne direction. Voilà. Si à côté de ça, et je vous l'ai dit, chez moi j'ai un ingénieur, j'ai un prof de maths, je ne suis pas contre les bons diplômes, mais ce n'est certainement pas la priorité. Parce que tu peux avoir tous les diplômes du monde, tu peux avoir le meilleur salaire au monde et être misérable. Et je voudrais que mes enfants soient heureux, comme moi je suis heureux. Et pour que mes enfants soient heureux, ce n'est pas leur diplôme, ce n'est pas l'argent qui va apporter le bonheur. On le sait, en tant que chrétien, on le sait d'autant plus. Mais malheureusement, on est tenté de penser comme le monde, si tu as une bonne situation, tu as plus de chances d'être heureux. Ce n'est pas vrai. Il faut que d'abord le cœur soit façonné, mais c'est Dieu qui fait ça, mais moi je suis un agent auprès du cœur de mon enfant pour le diriger vers Dieu. Et si je lui dis, ce qui est le plus important, c'est le diplôme. Ah non, je ne fais pas le bon boulot là. Tu fais d'abord ton cœur, Loulou. D'abord ton cœur. Et après, si en plus, tu feras des études, ah, tu as une bonne tête, vas-y, étudie, pas de problème. Et le diplôme, deviens ingénieur, deviens prof de n'importe quoi. Mais ce n'est pas le plus important. Si tu rates le cœur, tu as raté ta vie complètement. Luc 12, le gars hein, qui avait l'agriculteur super champion, qui avait des récoltes phénoménales. Et voilà, il dit, je vais bâtir des nouveaux hangars. Ouais, super, super diplôme. Et Dieu dit quoi? Fou, insensé. Demain, tu pars.
Bah, un de nos amis, enfin, qu'on apprécie le plus, qui, on a l'impression, il aime Dieu, il suit Dieu, aucun diplôme. Il était garagiste. Après, il est devenu... il travaillait dans la buanderie d'un hôpital. À laver. En plus, il y avait des personnes âgées, donc les draps et tout, c'était vraiment pas agréable comme boulot, mais il a fait ça, je crois, 10 ans. Ils ont fermé la buanderie, maintenant, ils l'ont reformé pour être chauffeur d'ambulance. Donc, il est SMUR, c'est ça. Mais à chaque étape, on le voyait, il parlait de son travail, il le faisait pour Dieu, les diplômes, c'était pas important. Donc, ça sort de la norme, je sais, hein, la norme culturelle. Mais c'est pas ça qui compte.
Mais on les empêche pas, hein, bien sûr. Hein, pour moi, je ne les empêche pas. Au contraire, je vois, tu as des capacités. Toutes tes capacités viennent de Dieu. Ce sont des cadeaux que Dieu nous donne. Alors bien sûr, nous devons bien les utiliser. C'est comme les talents. Les talents que Dieu nous donne, il faut les rentabiliser. Mais tu ne peux pas les rentabiliser au détriment de ton cœur. Ton cœur, c'est ce qui compte. Quand tu rentreras au ciel, Dieu ne va jamais te demander tes diplômes. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait de ton cœur? Qu'est-ce que tu es devenu? Et c'est pour ça que on ne peut pas faire autre chose que mettre l'emphase avec les enfants sur ton cœur. Et ça, bon, peut-être vous avez lu ce livre, il y a un livre qui s'appelle « Fier de toi, fiston ». Je sais que la tendance, et nous avons la même tendance, je sais que je me bats encore avec ça aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'enfant paraisse bien à l'extérieur. Ben, on fait tout pour dire, ben « Attends, agis différemment, ben, ne dis pas un mot comme ça.
Okay. » Qui n'a pas dit « Qu'est-ce que les gens vont penser si tu sors de la maison avec cet ensemble ?» On l'a tous dit.
Mais l'apparence, c'est pas ça qui compte. C'est, Loulou, t'as frappé ta sœur. Mais qu'est-ce que tu as dans le cœur? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Bah, je peux pas, elle m'a énervé. Bah, je sais que tu peux pas. T'as besoin de Dieu. Pointer le cœur de l'enfant dans la bonne direction. Mais naturellement, on le fait pas parce que le monde ne le fait pas. On est tellement dans le paraître. On est tellement dans qu'est-ce qu'il est devenu ton enfant. Première question, alors il est devenu quoi ton enfant? Ah, il est ingénieur. Ah, super, cool. On s'en fiche. Son cœur, il est où? Est-ce qu'il aime Dieu? Bah non, pas vraiment. C'est une faillite, c'est désolé. Il peut être un double ingénieur. Si son cœur n'est pas attaché à Dieu, le gars, il va pas dans la bonne direction. Et je peux pas me réjouir. Je me réjouirai avec chacun de mes enfants si leur cœur marche avec Dieu, même si aucun d'entre eux a aucun diplôme. Si leur cœur est attaché à Dieu. Mais, ce serait presque impossible, jamais. Même si, parce que je sais qu'on est en route dans la même direction. On marche vers le ciel, on va passer l'éternité ensemble. Alors que si quelqu'un, il se réjouit de ses diplômes à droite à gauche, mais son cœur n'est pas protégé et qu'il marche dans le péché, je me dis, qu'est-ce que tu deviens? C'est pour ça que je fais la différence. C'est une question de priorité. Dans la vie, c'est clair qu'il y a une priorité. l'attachement à Dieu, ou la piété. Là. Un enfant qui devient un adulte, qui s'attache à Dieu, qui aime Dieu. Puis à côté, Dieu donne plein de choses à côté, mais c'est du second degré. Ben, si tu es riche, tu as une maison, tu as une voiture, tu n'as pas de voiture, tu as un vélo, t'as... qu'importe, aucune importance. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Je crois que c'est vrai pour vous et pour moi. Hein. Ce n'est pas seulement qu'on est un enfant et qu'on est un adulte. C'est vrai pour vous et moi. Où est votre cœur? Est-ce que votre cœur est attaché à Dieu? Sinon, vous pouvez être la plus richissime personne de la Terre. Si votre cœur n'est pas attaché à Dieu, vous avez gâché votre vie. Donc je redonne cette même idée, cette même valeur à mes enfants. Je n'ai pas le choix. Je serais un hypocrite si je le faisais différemment.